RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Info Weekend, c'est avec vous, Lionel Sabot.
Le ministre de l'Outre-mer attendu dans une heure en Nouvelle-Calédonie. Une visite de 8 jours sur le territoire. Manuel Valls débutera son déplacement ce matin à 10h au pied de la Croix de Lorraine. L'horreur et le choc en Israël. 2 enfants dont les corps ont été rendus par le Hamas à l'État hébreu hier ont été tués à main nue par les terroristes islamistes. L'inquiétude autour de l'état de santé du pape François, le souverain pontife, n'est pas hors de danger, indiquait cette nuit pour nous son chirurgien officiel. L'inauguration de la brigade de surveillance extérieure des douanes de Nouméa, c'était hier matin à Nouville. Les 21 douaniers bénéficient désormais d'installations plus modernes pour mener à bien leur mission. Le sport et le football, on connaît les adversaires de Paris et Lille en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG rencontrera Liverpool, Lille affrontera le Borussia Dortmund. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Manuel Valls arrive donc en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 8 jours. L'avion du ministre des Outre-mer doit se poser à 8 heures à l'aéroport de la Tontouta. Manuel Valls vient poursuivre les discussions qu'il a eues à Paris, mais il veut aussi parler avec tous les Calédoniens et engager des négociations, Michael Juneski.
Oui, sa visite s'articule en 2 temps et on retiendra déjà qu'il réserve ses journées de mercredi et jeudi aux négociations. On ne sait pas encore quelle forme elles prendront, mais la méthode devrait être fixé lors d'une réunion au Congrès lundi après-midi au cours d'une séquence baptisée « plénière de méthode ». Si la deuxième partie de son séjour est donc consacrée aux discussions, Manuel Valls consacrera ses premiers jours de visite à des déplacements. Il visitera les 3 provinces, la province des îles dès cet après-midi puisqu'il se rend à Ouvéa, la province sud demain, dimanche, avec un déplacement à Moindou et Boulou-Paris, et la province nord mardi puisqu'il se rendra à Pointe-Bout et à Koumac. Manuel Valls rencontrera les responsables institutionnel lundi matin et les acteurs du monde économique lundi soir. Enfin, au dernier jour de sa visite, vendredi, Manuel Valls rencontrera Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France pour le Pacifique. Il participera à une cérémonie à l'école de police et il tiendra une réunion sur le nickel. Il quittera la Nouvelle-Calédonie dans la soirée.
La visite de Manuel Valls débute donc aujourd'hui. Elle commencera à 10h par une cérémonie de dépôt de gerbes à la Croix de Lorraine du Mont Coffin. Ils se rendront ensuite au Sénat coutumier. À midi, Manuel Valls sera à la brigade de gendarmerie de Plum pour un hommage au gendarme Nicolas Molinari qui a été tué au premier jour des émeutes du mois de mai. Le ministre s'envolera ensuite pour Ouvéa où un hommage à la brigade de Fayaoué et un échange avec les gendarmes est prévu. Manuel Valls se recueillera ensuite devant le mémorial des 19. Il s'entretiendra avec le président de la province des îles, Mathias Ouaneux, et il rencontrera les maires des 3 communes des îles. J'ajoute déjà ce rendez-vous que vous notez sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Manuel Valls sera notre invité du matin lundi à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et lors d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, la réponse à notre question d'hier. 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ne pensent pas que la visite du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, permettra d'avancer de façon significative dans la recherche d'une solution pour l'avenir institutionnel. Ils sont 12% à penser à l'inverse que cette visite peut permettre des avancées significatives. Merci de votre participation et rendez-vous désormais lundi pour une nouvelle question du jour. C'est le président du gouvernement, Alcide Ponga, qui était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence au lendemain de sa déclaration de politique générale. Il est revenu sur sa volonté de pragmatisme et d'efficacité sur les différentes mesures proposées et sur la philosophie de cette déclaration. Une interview d'Alcide Ponga qui sera rediffusée demain soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet. Et puis, ce matin, à partir de 11h30, nous vous proposerons la rediffusion du club politique Radio Rythme Bleu qui est revenu sur cette déclaration de politique générale du président du gouvernement. Les consultants du club se sont aussi interrogés sur la visite de Manuel Valls et sur ce qu'il faut en attendre à la lumière notamment des déclarations qu'il a faites ces derniers jours. L'occasion aussi de parler de la réunion publique des partisans de la France et de la lettre ouverte à Manuel Valls qu'ils viennent de publier en amont de la visite du ministre des Outre-mer. Club politique que vous pouvez réécouter également en podcast sur notre site internet rrb.nc. Venons-en à l'actualité à l'étranger. L'horreur et le choc ces dernières heures en Israël. Kfir Bibas, 8 mois, et Ariel Bibas, 4 ans, ont été tués par les terroristes islamistes du Hamas à main nue. C'est ce qu'a annoncé l'armée israélienne. Cette nuit pour nous, le Hamas affirmait que les deux enfants enlevés le 7 octobre 2023 et dont les corps ont été remis hier aux autorités israéliennes avaient été tués lors d'un bombardement israélien sur Gaza. Par ailleurs, on ne sait pas où est la maman de ces deux enfants. Le troisième corps remis à l'État hébreu est celui d'une habitante de Gaza, Frédéric Simon pour Europe 1.
La tristesse, la consternation et la colère des Israéliens ont été ravivées une fois de plus lorsque le porte-parole de l'armée a révélé les circonstances de la mort des frères Bibas, Kfir, qui n'avaient que 8 mois, et Ariel, 4 ans. Ils ont été froidement assassinés à main nue en novembre 2023 par leurs ravisseurs qui ont tenté par la suite de dissimuler les preuves de leur crime sur les corps des deux enfants. L'amiral Daniel Agari, porte-parole de Tzal, a précisé qu'il communiquait ces informations à la demande de leur père, Yarden Bibas, pour que le monde entier sache et soit scandalisé par la manière dont ses enfants ont été assassinés. Yarden Bibas a été libéré lui-même il y a une vingtaine de jours après 15 mois de détention dans la bande de Gaza. Et puis le corps présenté par le Hamas comme étant celui de son épouse Shiri n'est pas celui de la jeune femme, ni celui, les médecins légistes sont formels, d'aucune autre otage morte en détention.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. La santé du pape François et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le Saint-Père restera hospitalisé au moins toute la semaine prochaine et il n'est pas hors de danger, Michael Juneski.
Les médecins du pape ont annoncé que l'infection qui le touche était toujours en cours, que son état était stable, mais que le souverain pontife devrait encore rester à l'hôpital Gemelli de Rome pendant au moins une semaine. Son chirurgien officiel, Sergio Alfieri.
Le pape est-il hors de danger ? Non, le pape n'est pas hors de danger. C'est pourquoi, par prudence, il convient de le garder à l'hôpital au moins toute la semaine prochaine.
Les médecins ont tenu à clarifier le fait que François respirait, riait, qu'il était toujours vivant, car beaucoup de fausses informations ont circulé ces derniers jours à ce sujet. Le cardinal corse, Monseigneur François Bustillo, proche du pape, regrette les spéculations qui entourent cette hospitalisation.
Parfois, il peut y avoir l'imagination qui est déclenchée. Je pense qu'il faut être pragmatique et vivre au jour le jour. Il est malade, il est hospitalisé, il est soigné, c'est l'essentiel. C'est un hôpital, donc comme tous les patients, il faut du respect pour les patients. Il est le pape quand même, donc il faut qu'il soit protégé. Il faut aussi qu'il puisse avoir un cadre où il peut récupérer sa santé, et c'est le but.
S'il est enfermé dans sa chambre, le pape, âgé de 88 ans, ne reste pas pour autant coupé du monde. Il continue de recevoir ses plus proches collaborateurs, de signer des documents et de passer des appels téléphoniques. Il avait été admis à l'hôpital le 14 février dernier pour une bronchite, mais le Saint-Siège avait révélé cette semaine que le pape François avait développé une pneumonie. La durée de son hospitalisation reste incertaine.
L'actualité en métropole est le déplacement du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans la Drôme. Un déplacement un an et demi après l'assassinat du jeune Thomas à Crépol. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Valence, puis à Romans-sur-Irzère, où il a pu rencontrer la famille de Thomas, tué d'un coup de couteau lors d'un bal. C'était en novembre 2023. Lors de ce déplacement, Bruno Retailleau a par ailleurs détaillé son plan d'action en faveur de la sécurité du quotidien. Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur avait présenté à Grenoble sa stratégie contre le narcotrafic. Aujourd'hui, deuxième étage de la fusée, la lutte contre la délinquance qui pourrit la vie quotidienne des habitants des villes et des campagnes. Sauf que cette fois, il n'y a pas de plan tout fait venu d'en haut. Bruno Retailleau a sollicité tous les préfets de France pour que chaque plan soit élaboré en fonction des spécificités de chaque territoire.
Ces plans départementaux ont été conçus non pas par Beauvau, non pas par Paris, mais par le terrain. C'est pas Paris qui décide de tout, parce que Paris ne sait pas tout. C'est le terrain. C'est pas au ministre de l'Intérieur de décider le bon moment, la bonne patrouille au bon endroit. C'est une évidence. On va cibler les points chauds, les individus, les délinquants d'habitude.
Bruno Retailleau qui s'est ensuite rendu à Romans où il a pu rencontrer la famille de Thomas Perotto, 16 ans, tué d'un coup de couteau lors du bal de Crépol. Le ministre de l'Intérieur ému à l'issue de cet échange.
Les familles qui sont tordues par la douleur. J'ai été impressionné par la dignité de ses parents, de ses familles. Elles sont dans la souffrance, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide, et nous le ferons. Pour moi, je pense que quand on est ministre de l'Intérieur, on doit être aussi ministre des victimes.
Une rencontre qui a conforté Bruno Retailleau dans son action. Quand on entend les mots et la douleur de ces familles, on sait encore un peu mieux que le retour de la sécurité n'est pas une option, a conclu le ministre de l'Intérieur.
Jean-Luc Boujon pour Europe 1. Il est 7h10, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous revenons à l'actualité en Calédonie.
Préparez votre rentrée en toute sérénité avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. Le Toyota Raize à partir de 29 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross hybride à partir de 49 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota RAV4 hybride à partir de 55 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota Hilux à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Profitez des offres rentrées et roulez en toute tranquillité avec Toyota. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Suisse Info Week-end, Lionel Sabot.
Et l'inauguration de la brigade de surveillance extérieure des douanes de Nouméa, c'était hier matin à Nouville. Des installations plus modernes et plus sécurisées, Léo Fichou.
Et oui, un parcours d'obstacles depuis le lancement du projet, c'était en 2019, pour que 6 ans plus tard, enfin, les douaniers calédoniens puissent bénéficier d'une brigade à la hauteur de leur travail. Écoutez Benoît Godard, directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie.
Oui, effectivement, c'est un projet qui a été initié en 2019. Qui, faute de financement et compte tenu des crises successives qui se sont produites, que ce soit la crise sanitaire ou les événements en Ukraine, l'augmentation des prix, font qu'on s'est retrouvé avec un financement qui était un peu juste. Mais grâce au soutien de la Direction générale des douanes et du Haut-Commissariat, on était en mesure effectivement d'offrir aujourd'hui un bâtiment qui est tout à fait adapté aux missions de notre administration, qui lutte contre les trafics de produits stupéfiants, contre les trafics de tabac et contre tout un tas de prohibitions. Et donc aujourd'hui, on offre à nos fonctionnaires un outil qui est adapté, avec un espace réservé à ce qu'on appelle la zone travail, la procédure, et un espace qui est plutôt la zone vie. Mais c'est tout à fait étanche et ça consolide et ça sécurise nos actes contentieux, nos procédures.
Et des installations, comme vous le disiez Lionel, plus modernes, plus sécurisées, mais aussi bien plus grandes qu'auparavant, avec notamment des nouveaux bureaux, 2 cellules et de nombreuses salles, une salle d'armement, de restauration, et puis un espace extérieur, une terrasse, des vestiaires, un garage. Florian Collat est le directeur général des douanes.
On est très attaché à fournir les meilleures conditions de travail à nos équipes. On passe dans un autre monde avec cette très belle brigade qui est à la fois très opérationnelle, adaptée à leurs besoins et en même temps qui leur fournit un cadre de travail beaucoup plus agréable. Voilà. On est vraiment au plus haut niveau de qualité qu'on fournit dans les implantations bâtimentaires avec les enjeux de sécurité, de parking, de locaux techniques, de salles de travail, de salles d'un endroit de convivialité. On est vraiment dans le standard des meilleures brigades modernes. Et voilà, c'est une équipe qui a des missions très très larges en termes de contrôle de conteneurs, mais pas seulement, l'ensemble des contrôles douaniers qui sont réalisés sur leur ressort.
Et de nombreuses personnalités ont assisté à cette inauguration. Sonia Lagarde, maire de Nouméa, le haut-commissaire Louis Lefranc, mais aussi le sénateur Georges Naturel, le procureur général Bruno Dalle et le procureur de la République Yves Dupas. Ils ont pu visiter les nouveaux locaux et le haut-commissaire Louis Lefranc était loin d'imaginer une aussi belle infrastructure.
Ce sont des locaux qui vont permettre d'offrir d'excellentes conditions de travail aux 21 fonctionnaires des douanes qui sont dans ce service chargé de la lutte contre toutes les formes de trafic. Eh bien, là, je crois que c'est une marque de considération qui leur a été donnée, qui est à souligner. Et je remercie encore le directeur général des douanes de m'y avoir convié. En plus de ces infrastructures nouvelles dans lesquelles il y a des espaces prévus même pour l'équipe cynophile, et puis du matériel dernier cri qui va permettre aux services de douane de donner toute leur capacité à intervenir efficacement.
Et les 21 douaniers qui sont déjà installés depuis plusieurs jours dans leur nouvelle brigade à Nouville ont réalisé l'an dernier pas moins de 692 contrôles routiers, 226 contrôles aériens et 76 contrôles en mer. Et plus récemment, la saisie record de cigarettes, c'était sur un cargo à Nouméa au début du mois.
Et en marge de cette inauguration, Florian Collat, le directeur général des douanes, a signé une convention avec Thomas Dedecker, le directeur général de l'OPT. Une collaboration qui vise à optimiser le traitement des colis et des courriers internationaux, garantissant une meilleure fluidité des échanges et une expérience améliorée pour les clients. Convention qui repose sur 2 axes, la mise à disposition de locaux dédiés aux douanes et la mise en place d'un cadre réglementaire clair et structuré. Le coup d'envoi aujourd'hui des soldes d'été. Pendant 4 semaines, les Calédoniens pourront profiter de promotions et de prix cassés chez de nombreux commerçants. Cette année, les enseignes se sont aussi adaptées au portefeuille réduit de leur clientèle en élargissant leur offre de promotion. Les soldes d'été qui prendront fin le dimanche 23 mars prochain. Un coup d'œil à présent, si vous le voulez bien, à l'agenda festif de votre week-end et l'événement à ne pas manquer ce samedi. Michael Gineski, c'est la journée fête du sport qui est organisée à Lonsdata par la ville de Nouméa.
Oui, près de 50 associations seront réunies au complexe sportif, l'occasion de s'informer sur une ou plusieurs disciplines, voire de s'initier et de s'inscrire. Des plus jeunes aux seniors, du novice au confirmé, chacun pourra trouver le sport qui lui correspond. Les explications d'Alexandre Henrard, chef du service des sports de la ville de Nouméa.
On a effectivement une cinquantaine d'associations qui sont présentes, des associations sportives, avec tout un panel de familles d'activités différentes. Elles sont regroupées en 6 pôles, donc on aura le pôle arts martiaux, le pôle sport de raquette, le pôle sport aquatique, le pôle sport individuel, le pôle sport collectif, et on a une dernière famille qui correspond au pôle plus institutionnel, donc les services municipaux et les partenaires institutionnels que l'on peut avoir sur cette opération. Donc en l'occurrence, pour cette 6e édition, on aura l'USEP et l'agence sanitaire et sociale qui seront présentes, notamment pour le côté sport santé. Mais on a également des actions municipales, donc le programme sport action sera présent aussi par l'intermédiaire de notre service, le service municipal des sports, où on fera la promotion de ce programme, des actions menées dans les piscines municipales et ainsi que les actions qui sont menées par d'autres services de la commune qui sont en lien avec le sport ou en tout cas avec des activités socio-sportives.
Le coup d'envoi de cette journée fête du sport sera donné à 9h à la salle Omnisport de Lonsdata et au stade Édouard Pentecôte. L'événement s'achèvera à 15h.
Ce samedi encore, Mickaël, de nombreuses structures ouvrent leurs portes au public.
Ouais, c'est le cas des ateliers du Faubourg, un lieu artistique et culturel qui organise des cours, des stages et des ateliers toute l'année. Rendez-vous de 9h à midi. Et puis en centre-ville, le public pourra visiter aujourd'hui le Rex de 11h à 17h et découvrir la programmation de l'année.
Pour les passionnés d'histoire ou les curieux, l'association Témoignages d'un passé organise des visites sur le site historique de Lille-Nous. C'est ce matin. Rendez-vous de 9h à 11h à Nouville. Les réservations se font sur etiquette.nc ou par téléphone au 73 77 83, le 73 77 83. On termine en musique. Mickaël, à Sainte-Marie, le deck du parc urbain ouvre sa saison culturelle. Des animations seront proposées tous les derniers dimanches du mois.
Et ce dimanche, c'est l'artiste Matt On Air qui se produira en plein air, un artiste de la scène pop-rock acoustique qui vous fera découvrir son univers de 16h à 17h. Donc, le spectacle est gratuit et en libre accès.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez-nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Un souvenir de rentrée, c'est le petit plus sur Radio Rythme Bleu pour accompagner la rentrée scolaire. Un chef d'établissement nous raconte ses souvenirs de rentrée et nous parle aussi de l'évolution de son métier. Aujourd'hui, les témoignages de Pierre Jean Long, le directeur du lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel du Mont-d'Or.
Le principal souvenir, parce que c'est un peu compliqué d'en avoir qu'un seul. Ouais, je pense surtout quand j'étais à l'école primaire au Sacré-Cœur, c'est-à-dire que je me rappelle de mon ancien instituteur, Monsieur Van der Kerkhoff, et je me rappelle parce que c'était quelqu'un de très 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 imposant. Lorsqu'on le regarde un peu avec un œil d'un enfant, et au bout du compte, c'est quelqu'un qui m'a surtout mis en confiance, voilà, et que ensuite, j'étais surtout très agréablement surpris, voilà, de rentrer un peu dans cette grande école, parce qu'on venait un peu de la maternelle en bas de Cluny, on arrivait au Sacré-Cœur à l'époque, là, voilà. Donc voilà, mon principal souvenir avec un enseignant, je me rappelle à l'époque, c'était pas commun pour nous d'avoir un enseignant homme. Donc un maître, voilà. Donc c'était ça. Et il nous a surtout mis en confiance, moi-même, je m'en rappelle. Et voilà, c'est des beaux souvenirs avec Monsieur Van der Kerkhoff. Ouais.
Quelles sont les principales évolutions par rapport à cette époque, maintenant que vous êtes chef d'établissement ?
Alors moi, je suis chef d'établissement maintenant dans le secondaire, et c'est vrai que là, je parlais du primaire. Mais effectivement, si je dois retenir quelque chose, c'est qu'à l'époque, on démarrait déjà un peu plus tard, sur la rentrée scolaire. Ben, l'impression que j'ai, c'est peut-être, alors après c'est vrai qu'il y a une coordination au niveau calendaire, mais c'est que j'ai l'impression qu'on démarre un peu plus tôt, et effectivement avec des conditions où on est dans des situations où les élèves ils ont chaud, c'est voilà, et on finit un peu plus tôt aussi par rapport aux examens. Ben, au niveau de l'enseignement, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement, hein, je dirais des adaptations qui ont eu lieu ici en Nouvelle-Calédonie par rapport donc au programme, ça c'est clair. avec une carte de formation aussi qui a beaucoup évolué. Hein. Je rappelle qu'à l'époque, si on voulait avoir une formation supérieure après le bac, il y en avait beaucoup qui partaient en métropole. Effectivement, il y a eu cette évolution aussi de la carte de formation, aussi bien dans le secondaire, dans le post-secondaire, l'université. Voilà, donc c'est clair qu'en plus de 30 ans, il y a eu quand même une évolution, des propositions de formation sur le territoire.
Pierre-Jean Longue, le directeur du lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel du Mont-d'Or, propos recueillis par Kélinda Boiscou.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Il est 7h20, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, toute l'actualité sportive, il y a du boulot ce matin, et la météo, il fait beau.
Boostez vos compétences professionnelles avec le diplôme d'université marketing opérationnel et stratégique de l'UNC. Une formation complète pour maîtriser tous les aspects du marketing, des bases solides aux stratégies avancées, sans oublier le web marketing. Une formation courte sur 3 mois, de février à avril 2025, avec 4 modules de 3 à 4 jours pour un apprentissage flexible. Joignez l'UNC à la rentrée du 25 février. Le diplôme d'université marketing opérationnel et stratégique de l'UNC, votre avenir commence ici. Info pratique sur unc.nc.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Urgence, pouvoir d'achat. Vous entendez ? C'est la rentrée ! Mais c'est aussi et surtout l'occasion de participer à notre grand jeu spécial rentrée jusqu'au 23 février pour gagner plus d'1 million de francs de cadeaux. Pour jouer, rendez-vous dans votre magasin Hyper Upaïta et remplissez le bulletin de jeu sur l'une des bandes sur place. Jeu sans obligation d'achat, règlement disponible en magasin, tirage au sort le 24 février. Suivez toute notre actualité sur notre page Facebook et profitez de nos promos rentrée des classes dans notre catalogue. Hyper U, sortie Païta Centre.
U, commerçant, autrement.
RRB, première radio d'information.
La suite des faux week-ends et c'est du sport, Lionel Sabot.
Eh bon, on va commencer avec du football puisque l'on connaît les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Léo Fichou.
Le tirage a eu lieu hier soir et les clubs français auront fort à faire face à des adversaires de taille. Le Paris Saint-Germain, qui a dû passer par les barrages, on le rappelle, face à Brest, sera opposé à Liverpool avec le désavantage de jouer le match retour en Angleterre à Anfield. Lille, de son côté, qualifié directement pour les huitièmes de finale, défiera le Borussia Dortmund. On retiendra également le derby madrilène entre le Real et l'Atlético, un duel entre le Benfica et Barcelone, ou encore ce choc 100% allemand entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Dans les autres rencontres, Bruges sera opposé à Aston Villa, Arsenal jouera contre le PSV Eindhoven et le Feyenoord Rotterdam défiera l'Inter Milan. Les huitièmes de finale aller se joueront les 5 et 6 mars, les retours la semaine d'après le 12 et le 13 mars. Et puis pour être complet, on va donner l'affiche des huitièmes de finale de la Ligue Europa entre Lyon et le Steaua Bucarest. Les matchs se joueront les 7 et le 14 mars.
Mais à l'avance, la place à la Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais qui recevra le Paris Saint-Germain. Ce sera lundi matin en clôture de la 23e journée. Ce matin, c'est Rennes qui accueille Reims en ouverture. La nuit prochaine, Lille sera opposée à Monaco. Saint-Etienne accueillera Angers à Geoffroy Guichard. Et Marseille ira à Auxerre. Et puis pour être complet niveau football ce week-end, l'équipe de France féminine dispute la Ligue des Nations.
Les tricolores démarrent leur campagne européenne face à la Norvège. C'est ce matin, première des 6 journées de cette Ligue des Nations. La rencontre a démarré il y a un petit quart d'heure et il y a toujours 0-0 entre la France et la Norvège. Après ce match, les Bleus iront affronter l'Islande avant de retrouver la Suisse, ce sera en avril.
On passe à l'actualité du rugby avec la 3e journée du tournoi Destination.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et Fabien Galthié qui a dévoilé la compo du 15 de France pour affronter l'Italie, ce sera lundi.
Et comme attendu, il y a du changement avec les titularisations de Léo Barré à l'arrière, de Théo Atisogbe sur l'aile et de Mickaël Guillard au poste de deuxième ligne. Thomas Ramos jouera lui en 10 à la charnière aux côtés d'Antoine Dupont. On notera également que les Calédoniens Peato Maovaka et Yoram Mouefana seront titulaires. En revanche, Damien Penaud et Mathieu Jalibert ne sont pas sur la feuille de match. Fabien Galthié qui a confirmé un banc avec 7 avant et Maxime Lucu le seul arrière. Le sélectionneur a expliqué son choix risqué.
C'est vrai qu'un trois quarts, c'est prendre un risque. Hein. Et le poste le plus spécifique peut-être des trois quarts, sûrement, c'est le poste de demi-mêlée. Sachant que Maxime Lucu, lui, est un demi-mêlée qui bute en plus et qui joue numéro 10 en club. Avec Antoine Dupont, On a deux joueurs qui peuvent être polyvalents. On a avec Léo Barré, un joueur qui peut bouger dans la ligne. Et on a aussi deux troisièmes lignes qui ont passé de centre et qui peuvent nous rendre service si on avait un problème dans la ligne de trois-quarts. Mais c'est vrai qu'il y a un risque.
Italie-France, ce sera à suivre dans la nuit de dimanche à lundi pour nous. Ce sera à 2h du matin. Mais avant ça, rendez-vous la nuit prochaine à 1h15 pour Pays de Galles, Irlande, puis à 3h45 pour Angleterre-Écosse.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Et du rugby en veux-tu, en voilà, puisque c'est un week-end de doublon avec aussi la 17e journée du top 14.
Et c'est le Castres Olympique qui recevra Lyon en ouverture demain, donc à minuit et demi. La rencontre sera suivie à 2h30 d'un multiplex. Toulon, Stade Français, Vannes, Montpellier, Section Paloise, USAP et Stade Rochelet, Racing 92. Demain matin à 7h05, le Stade Toulousain accueillera l'Aviron Bayonnais. Et puis lundi matin à la même heure, 7h05, donc l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, sera opposé à Clermont.
Les sports d'hiver avec la suite ce week-end des championnats du monde de biathlon, c'est en Suisse.
La délégation française a déjà glané 10 médailles, 5 en or et 5 en bronze, et va continuer ce week-end sa moisson. D'abord ce soir avec le relais dames, un relais tricolore composé de Julia Simon, Justine Brézaboucher, Lou Jean Monon et d'Océane Michelin, préférée à Jeanne Richard. Ensuite, ce sera au tour du relais hommes avec les frères Claude, d'Éric Perrault et de Quentin Fillon-Maillet.
Et du tennis avec la finale du double ce matin sur le Challenger de Brazzaville au Congo.
C'est le Calédonien Maxime Chazal qui est donc en finale. Il est associé à un autre Français, Geoffrey Blancano. Ils affrontent la paire brésilienne tête de série numéro 1 du tournoi composé de Barreiros Reyes et de Saraiva dos Santos. Le score est de 5 jeux à 3 pour les Brésiliens et le service est aux Français.
Et du tennis aussi en Calédonie avec de nombreux tournois au programme ce week-end à Païta, au Mont-Coffin ou encore à la 6e kilomètre. En bref, on reste sur le territoire avec des trails, du cyclisme et du kitesurf aujourd'hui et demain.
On démarre en mer avec le retour des compétitions freestyle de kitesurf, c'est ce matin donc dès 11h sur la plage du Méridien. Sur terre cette fois, deux courses à pied sont organisées ce week-end. Cet après-midi d'abord à Tina, ce sont les foulées solidaires. Ce sera dès 15h donc au stade de Tina. Et puis demain matin, ce sera du côté du Yala Ranch avec le Blue Bat Trail dès 7h30. Enfin sur les routes du cyclisme demain avec la première compétition de l'année, le Critérium de Païta dès 7h et jusqu'à 11h demain matin.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, ce matin, sur l'ouest, l'île des Pins est marée. Les conditions s'amélioreront progressivement et le soleil fera de belles apparitions. Ailleurs, les nuages résisteront encore et des averses faibles resteront possibles, en particulier sur les pointes nord et sud, ainsi que sur le nord-est. L'alizée d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Localement, autour de 20 nœuds, ce sera sur l'ouest. Cet après-midi, les développements nuageux sur la chaîne seront limités. Ils donneront néanmoins des averses faibles à localement modérées sur l'ouest et la pointe nord. Ailleurs, le temps restera généralement sec avec un ciel passagèrement nuageux. L'alizée d'est-sud-est se maintiendra généralement entre 15 et 20 nœuds. Sur l'ouest, il se renforcera entre 20 et 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Les températures maximales seront comprises entre 29 et 31 degrés. Localement, jusqu'à 32 degrés, ce sera sur l'ouest, Lionel.
Merci Nicolas, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi.